Depuis que je fais l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est pas track, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'a la flemme, l'imprimante bien trop lente, la cartouche qui se touche, et les bus qui abusent, les polices qui pâlissent, les VD fatigués, le scanner cassé nerf, le menu pomme dans les pommes, c'est des ROM, c'est tout comme la mémoire sans espoir, les options en option, la souris rabougrie, le mulot bien trop gros. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique, ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on fait content.
Bravo Michel.
Merci Sylvain.
Quel impro.
C'est un métier.
Allez à moi, j'ai entendu bug. Alors, comme j'ai un bug dans le système, je téléphone au réparateur. Il me demande quel est le problème. Je vous écoute, j'ai un quart d'heure. Je lui dis soyez pas si pressé et laissez-moi vous expliquer. J'ai le Mac qui patraque, le PC déglingué. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki. J'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelle, l'USB constipé. J'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pagaïa, la disquette qui caquette, l'utilitaire qui a des verres, les icônes qui déconnent, le processeur qui est farceur, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeurt, le moniteur et ta sœur.
Ah mon Dieu, c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu, c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on fait comme temps.
Bon, je suis ce matin avec Yves-Marie. Yves, bonjour.
Bonjour.
Je ne sais pas jusqu'où il faut te présenter encore, parce que je pense que dans plusieurs communautés et groupes affinitaires et autres, on te connaît bien maintenant. En tout cas, on a entendu parler de toi. Mais peut-être pas pour toutes les personnes auditrices de la radio, là, ici, Cause Commune. Je ne sais pas, comment tu voudrais dire, toi, pour te présenter ?
Que je suis délégué général de l'association Lève les yeux, qui lutte contre la surexposition aux écrans. Mm-hmm. Puis que j'ai écrit, j'ai co-écrit un premier livre qui s'appelle La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre, publié aux éditions L'Échappée, donc j'avais co-écrit avec Florent Souillot. Et puis là, plus récemment, donc en février, un deuxième livre est ressorti aux éditions Rue de l'Échiquier,
oui,
qui s'appelle Numérique, on arrête tout et on réfléchit.
Voilà, alors en effet, nous on s'était rencontrés il y a 2 ans, quasi exactement. C'était avril 2022. On se redisait ça là tout à l'heure, juste avant l'émission. C'était à l'occasion d'une rencontre des collectifs de l'attention. Et il y avait eu plusieurs thématiques d'ores et déjà qui avaient été abordées, à la fois du côté de la planète menacée par le numérique, et puis tout un volet sur la question des jeunes, des réseaux sociaux, etc. Et à l'époque, il y avait des demandes concernant des candidats à la présidentielle. Alors c'est drôle, 2 ans après, on n'est plus sur des demandes présidentielles, mais peut-être on y reviendra, on serait potentiellement sur des demandes par rapport à des députés. Mmh. En tout cas, voilà, lève les yeux de tes écrans. Voilà, lutte contre la surexposition aux écrans, la guerre de l'attention, effectivement. Est-ce que, globalement, avant de rentrer plus dans le détail des choses, est-ce que tu dirais qu'en 2 ans, les choses ont beaucoup bougé ou pas encore ?
Oui, nous, on est quand même assez satisfaits de l'évolution des choses. Alors oui, c'est peut-être pour préciser, donc, le collectif Attention, donc Lève les yeux, on a été à l'initiative de ce collectif qui rassemble plusieurs associations, je crois qu'on est 8 aujourd'hui, qui sont engagées dans la lutte contre la surexposition aux écrans. Mmh. Mais il y a aussi des associations environnementales comme Agir pour l'environnement ou Halte à l'obsolescence programmée, et puis des associations de prévention. Et donc, on organise tous les 2 ans les assises de l'attention, et qui visent à réunir la société civile et à interpeller les responsables politiques. Et on a aussi émis des propositions politiques, justement, à destination des différents partis, des différents candidats. Et donc, juste pour préciser, donc Lève les yeux, on est à la fois en prévention sur le terrain et à la fois, on joue un rôle comme ça dans ce plaidoyer. Et donc, effectivement, on est assez satisfait des dernières évolutions. Parce que on voyait bien qu'on avait du mal à être entendu quand même sur la gravité de la situation, sur l'urgence d'une politique de prévention plus ambitieuse, de fixer des jalons plus ambitieux en termes de limites d'âge, sur la possibilité d'interdire le smartphone, Avant un certain âge, tout ça, c'est des choses qui ont bougé. Voilà, donc avec notamment le fait que le président de la République ait créé une, ait monté une commission d'experts pour travailler sur cette question, qui dont le rapport est quand même assez ambitieux et assez voilà, il rejoint pas mal de points qu'on comporte. Alors c'est évidemment pas autant que ce qu'on espérait, mais c'est quand même Alors disons que si, ça atteint ce qu'on espérait, mais évidemment, ça pourrait aller encore plus loin. Et voilà. Et donc là, la dernière petite évolution, c'était là, dans la conférence de presse d'Emmanuel Macron, là, d'hier, ou avant-hier, je sais plus, qui dans sa nouvelle campagne qui s'ouvre pour les législatives, demande l'interdiction du smartphone avant 11 ans. Voilà. Donc nous, on demande 15 ans, mais je veux dire, le simple fait que quelqu'un comme Emmanuel Macron puisse proposer ça, c'est déjà quand même le signe que c'est une thématique qui progresse et qui gagne en légitimité. Il y a une, voilà, qu'il y a une prise de conscience du côté des responsables politiques au plus haut niveau. Et donc ça, c'est positif.
Ok. Tu n'as pas peur que ce rapport, enfin toi et les autres membres des collectifs ou associations sur la même ligne que toi, tu n'as pas peur que ce rapport soit comme d'autres consultations qui ont été faites sur des sujets type la transition écologique, etc., soit mise de côté et en fait, voilà, qu'on ait fait, oui, bien sûr, on a écouté, on a fait comme si on écoutait, mais derrière, rien ne se passe.
Bien sûr, on est assez lucide hein, sur les différentes initiatives, les comités Théodule, entre la Convention citoyenne pour le climat et toutes les autres initiatives, moi, à titre personnel, je me fais à peu près aucune illusion. Donc sur des mesures vraiment concrètes et sérieuses qui pourraient être prises. En revanche, voilà, je note quand même l'évolution du discours qui n'est pas totalement anecdotique, quoi, parce que c'est en fait on sent que le champ du voilà la ligne médiane du discours dominant évolue plutôt dans le bon sens. Et ça, je pense que c'est une victoire à faut savoir s'en réjouir. Nous, on le sent aussi quand vis-à-vis de nos interlocuteurs, quand on parle à des collectivités locales, quand on parle à des responsables un peu partout, à des différentes structures. Le fait que la parole publique au plus haut niveau acte la gravité de la situation et le besoin de mesures et qui n'exclut pas des mesures de régulation. Vous avez aussi dans le rapport la proposition d'interdire les écrans à l'école maternelle, qui rejoint une de nos propositions. Bon, bah voilà, c'est quand même des étapes qui sont passées, des points qui sont marqués. Bien sûr, on est loin de mesures concrètes, on est loin de voilà, les écrans sont encore dans les écoles, ils sont encore en train de s'y diffuser. Enfin, je veux dire, il y a l'intelligence artificielle qui est en train de se déployer dans l'école. Donc, je veux dire, là, concrètement sur le terrain, on n'y est pas du tout. Mais voilà, il y a des petites victoires, il faut savoir les noter.
Les apprécier quand même.
Voilà, les apprécier.
D'accord. Bon, tu le disais tout à l'heure, effectivement, en février 2024 est sorti un livre que tu as écrit qui s'appelle « Numérique, on arrête tout et on réfléchit ». Alors, « On arrête tout et on réfléchit », c'est une collection, une série que mènent les éditions Rue de l'Échiquier. Et il y a plusieurs thématiques qui sont sorties par ailleurs. Et donc, voilà, toi, c'était « Numérique ». Et effectivement, dans ce livre, ce que j'en ai apprécié beaucoup, c'est le fait que tu décris que le rouleau compresseur qui a été lancé continue de tourner sur sa lancée concernant le numérique et l'informatique et que ça broie sur son passage. Alors, non seulement les imaginaires des enfants, mais aussi les accès aux droits des adultes, ça broie les terres des peuples dits autochtones, les Premières Nations, autant que celles chez qui on vient déverser toujours plus de déchets. Hein. Je me souviens de la très très belle intervention il y a 2 ans de Fabien Lebrun avec son livre « On achève bien les enfants ». Par exemple, il y en a eu d'autres, mais voilà. Et globalement, ce rouleau compresseur broie également nos libertés, puisqu'on voit bien que, et on sait que plus de surveillance, des excès sécuritaires, etc., sont encore plus possibles avec le numérique. Du coup, voilà, est-ce que tu peux peut-être expliquer pour les auditeurs les descriptions que tu fais de ça? Puis après, dans un deuxième temps, il y a toutes les alternatives ou les choses possibles, probables que tu évoques.
Oui, alors, j'essaie d'expliquer effectivement de synthétiser les impacts de la numérisation du monde, qui sont c'est une tâche en fait qui est toujours un petit peu impossible, parce que c'est impossible d'être exhaustif en matière de ravages causés par la numérisation du monde, mais c'est vrai que bon, pour brosser un portrait rapide, j'essaye de commencer par les enjeux sanitaires qui sont un peu l'urgence qui saute aux yeux avec la surexposition des enfants. Toujours plus jeunes, toujours plus longtemps, sur des contenus toujours plus problématiques. Donc ça, c'est quand même une donnée assez inquiétante que nous, on constate sur le terrain avec l'association Lève les yeux. Voilà, l'augmentation du temps d'écran, des contenus inappropriés et à des âges toujours plus jeunes. Je dirais qu'une des dernières évolutions qui est très inquiétante, c'est celle de la, c'est le poids de TikTok, hein, qui est l'application la plus regardée, la plus utilisée par les jeunes. Voilà, qui encourage des contenus quand même très variés, mais bon, pour beaucoup futiles, la violence, la sexualisation. Voilà, on a maintenant des études assez claires qui montrent l'impact sur la santé mentale des jeunes, et en particulier des jeunes filles. Il y a un livre, la Young Choose Generation, là, du psychologue Jonathan Haidt, qui montre ça très bien. Il y a des études qui montrent la corrélation entre l'âge d'accès au smartphone et les troubles et la dépression, en fait, chez les jeunes. Donc voilà. Donc, des ravages sur la santé. Bon, évidemment, pour parler des plus petits, il y a évidemment l'accès à la cognition, donc le langage, les retards de langage, la mémoire, le quotient intellectuel, tout ce développement cognitif qui est retardé, qui est amoindri. Et donc voilà, du plus jeune âge jusqu'à la fin de l'adolescence, on a un enjeu sanitaire important, bon, sommeil, obésité, évidemment aussi.
Et même, je me souviens que tu parles également de la question du rapport à l'espace et à l'espace-temps.
Oui, le sentiment d'accélération. Alors ça, c'est aussi un auteur, l'auteur allemand Hartmut Rosa, qui en parle très bien. Plus profondément, ça c'est la numérisation, le progrès technologique qui développe cette sensation de famine temporelle. Paradoxalement, puisqu'en fait, on n'a jamais eu autant de temps disponible, mais on n'a jamais eu autant la sensation de manquer de temps. Donc ça, c'est un des paradoxes de la modernité qui est lié précisément au fait qu'on est saturé de sollicitations, d'opportunités, et que notre esprit ne se pose plus. Il est tout le temps en train d'aller chercher de la dopamine avec ses applications numériques, et donc. Bon, voilà, on est un peu dans une fuite en avant comme ça. On voit la multiplication des burn-out au travail. Moi, je crois qu'il y a un lien très fort entre ce phénomène des burn-out qui est devenu très très important dans la société et la numérisation de la vie, la numérisation des divertissements, le fait que les gens, bon, en plus le mélange entre avec le télétravail, le mélange entre vie privée et vie professionnelle, voilà, et puis bon, cette recherche de productivité, d'efficacité, tout ça se mélangeant crée comme ça une surcharge cognitive chez des humains qui sont pas aptes en fait à évoluer dans un environnement aussi numérique, et donc voilà, donc des enjeux comme ça d'ordre anthropologique. J'appelle ça une sorte de parcours à travers le désastre. Alors c'est un peu déprimant, hein. Voilà, donc c'est vrai que si on creuse ces enjeux, enfin les impacts, ils se retrouvent bien sûr sur l'éducation, parce que des enfants surexposés apprennent moins bien. Il y a les impacts sociaux derrière, avec le fait que dans les milieux favorisés, il y a une vraie prise de conscience là qui est à l'œuvre, qu'on constate aussi avec l'association. Ouais. Et donc on sent des progrès du côté des milieux les plus favorisés, et on sent une aggravation de la situation du côté des milieux défavorisés. Et ça, c'est très très inquiétant à mes yeux, puisque je pense que c'est quand même une des ambitions qu'on doit pouvoir se donner, qui est de réduire les inégalités sociales à travers l'école républicaine. Et en fait, de plus en plus, on se rend compte que cette école presque accentue ces inégalités. Oui, bon, de toute façon, on le sait, hein. Voilà, on a des rapports, les rapports PISA qui le montrent. Et c'est vrai que sur le terrain, on le voit, quoi. C'est-à-dire que il y a des enseignants qui sont incroyables, qui font un travail qui se donnent énormément, qui se sacrifient, bon, tout ça pour des salaires pas du tout à la hauteur de leur travail. Des équipes éducatives en général, hein, les directions, etc., les CPE qui sont des gens vraiment incroyables. Mais à côté de ça, voilà, les élèves sont poussés à passer par le numérique tout le temps. Il y a des problèmes, des enjeux de mixité sociale, etc., qui font qu'il y a des stratégies de fuite de la part des milieux favorisés. Et on voit vraiment comme ça deux écoles, enfin, un système éducatif qui se fait un peu à deux vitesses. Et quand en plus dans les familles, on va dire privilégiées, il y a cette idée de verrouiller le temps d'écran, de proposer des activités sportives, artistiques, émancipatrices, on accentue comme ça l'écart en fait dès le départ en termes de d'accès à la connaissance, en termes de d'éveil de l'esprit, d'esprit critique, et ça c'est quand même assez inquiétant pour le futur. Donc là c'est dans le volet éducatif, puis donc il y a tout le volet écologique dont on a parlé effectivement lors des assises de l'attention il y a 2 ans, avec ces impacts écologiques énormes, les impacts sociaux aussi de l'extraction de terres rares. Donc là Fabien Lebrun que tu as évoqué publie un nouveau livre à la rentrée, Barbarie numérique, une autre histoire de l'humanité, donc qui s'intéresse de près en fait à l'extraction de minerais au Congo et en fait à l'histoire de l'extraction minière et aux liens en fait entre les entreprises occidentales ont toujours utilisé l'extraction le sol de pays qu'ils ont colonisés, qu'ils ont dominés pour enrichir leurs entreprises. Là, c'est vraiment sur les smartphones et sur la technologie numérique, c'est vraiment un cas d'école avec des ravages monstrueux dans les pays d'extraction comme le Congo pour des matières comme le coltan ou le cobalt.
Oui.
Et qui sont vraiment loin de nos yeux et dont on a très peu d'informations qui circulent, très peu de médiatisation, alors que il y a un impact vraiment direct entre notre consommation numérique et les conditions d'extraction dramatiques dans lesquelles ça a lieu. Pour le champ du désastre, on est déjà pas mal. Et puis après, il y a un autre volet donc, que je développe après dans un chapitre dédié, qui est le volet de la démocratie. Donc je sais pas si tu veux, j'en parle aussi.
Si, pour moi, ça fait partie, c'est ce que je disais tout à l'heure, la perte des libertés également, en tout cas les attaques contre des libertés, donc oui, contre la démocratie, oui.
C'est ça. Donc ça, c'est... Puis bon, je trouve que dans la période qu'on vit en ce moment, c'est intéressant aussi de prendre un peu de recul et d'essayer d'évaluer l'impact de la technologie numérique sur la situation politique, parce que je pense que en fait, donc comme on est dans un bain numérique, je rappelle, on est entre 10 et 12 heures par jour à peu près pour les adultes en moyenne, donc sur 17 heures éveillées, à peu près toutes les activités se sont transférées sur le numérique. Il y a plus de temps mort, les gens font à peu près tout sur leurs applications et notamment s'informent et débattent. Et ça, je pense que c'est, à mes yeux, c'est peut-être un des points vraiment centraux du problème, le fait que, parce que si on veut espérer une solution au désastre que j'ai évoqué rapidement, il y a une bataille culturelle à mener. Il va falloir convaincre un maximum de gens, précisément que cette technologie pose problème et qu'il faut réussir à s'en éloigner. Et pour convaincre, il faut pouvoir débattre, il faut pouvoir accéder à l'attention des autres.
Oui.
Parce que tant qu'on parle entre gens convaincus, en fait, on fait pas beaucoup progresser les choses. Et malheureusement, l'attention humaine aujourd'hui est monopolisée, quasi monopolisée, pas complètement, mais quand même très largement captée par les plateformes numériques. La conversation a lieu aujourd'hui sur X, donc ex-Twitter, elle a lieu sur TikTok, Instagram, Snapchat, ou des boucles Telegram, des applications comme Discord, c'est là que ça se passe. C'est accessoirement aussi sur les chaînes d'information en continu, mais bon, ces chaînes d'information en continu ont beaucoup vocation à créer du contenu court et choquant qui va alimenter en fait ces plateformes. Et en fait, la conversation de café, le débat à l'Assemblée, le débat à travers des médias traditionnels, de professionnels, en fait, de journalistes professionnels qui font la médiation sur les différentes idées, le débat tel qu'on l'a pu le connaître pendant plusieurs siècles, en fait, c'est déplacé sur ces plateformes. Alors d'abord, il y a les télévisions, et puis radio, télévision, et maintenant donc numérique, où là, il y a un cap qui est passé. Et je pense, moi, que c'est dramatique, parce qu'en fait, il y a une polarisation, il y a structurellement une polarisation du débat. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez peu dit, assez peu compris, je pense, de manière générale. Mais si on voit qu'en fait, la provocation à la haine, les thématiques identitaires, la stratégie du clash permanent, ça fait gagner en fait les élections. Voilà, je veux dire, ça a été théorisé hein, par des conseillers de Trump, de Bolsonaro, de Orban. Il y avait le mouvement 5 étoiles en Italie. Ouais. Aujourd'hui, le Rassemblement national ou Reconquête, c'est des partis qui écoutent les mêmes conseillers, qui ont la même stratégie, c'est identifier des ennemis et utiliser les réseaux sociaux pour polariser au maximum le « eux » et le « nous ». J'ai envie de dire qu'il y a quand même aussi une tendance au sein de la gauche à être beaucoup sur les thématiques identitaires, précisément parce qu'en fait, les réseaux sociaux favorisent ces angles conflictuels émotionnels, en fait. Et voilà. Et moi, je pense qu'on a un énorme problème avec ça, parce qu'au contraire, on devrait être à tout prix dans une stratégie de réconciliation, d'harmonie. Et voilà. Et la façon dont se déroule le débat public, structurellement, le rend très compliqué, voire impossible. Donc voilà, un enjeu démocratique très fort, avec en plus, comme tu l'as évoqué, la question, l'enjeu de la technologie de surveillance, hein, bien sûr. Plus on numérise le monde, plus c'est facile pour des gouvernements de contrôler la population, de surveiller et punir. Et là, bon, je veux dire, tous les outils de contrôle et de surveillance sont déjà mis en place par un gouvernement dit libéral. Mmh. On peut vraiment redouter le pire, bien sûr, quand on aura un gouvernement qui s'assume autoritaire. Mmh. Si jamais on l'a, parce qu'on n'est pas...
On
est en droit d'espérer que ce soit pas le cas.
On peut espérer que peut-être non. En tout cas, qu'il y a pas mal de monde qui bouge là en ce moment pour ce qui concerne la France, en tout cas. Mm. Même si ailleurs, c'est pas si simple. OK, alors, voilà une description. Effectivement, tu appelais ça le parcours à travers le désastre. Et je te rejoins, c'est quand même de ça dont il est question.
Me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens. Dans quelques feux, je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux dans tes applis, baby.
Message.
Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation. Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications. Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller en concert? Tu m'as tout mis sur YouTube. Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs. Je fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts. Mes gosses font plus de toboggan. Faire jouer avec toi, baby. Je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux dans tes applis, baby.
Mon précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux. 139 nouvelles demandes d'amis. Vous avez 120 nouveaux likes. Vous n'avez pas vu vos amis depuis 2 mois. Votre vie est digitale. LOL.
Cause commune, 93.1, la voix des possibles.
Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agissait de Soprano, le rappeur Soprano, avec son précieux smartphone. Au fondement de nos libertés, l'attention est une ressource rare et précieuse. L'attention, aussi bien celle qu'on se porte qu'on porte à l'autre, aux objets, au monde autour de nous. Et cette attention pourrait disparaître si son exploitation, immense gisement de profit, n'est pas limitée. La régression démocratique via les propagandes politiques, identitaires, etc., autant que le coût écologique et la catastrophe sanitaire et sociale, voilà à quoi on a matière à s'opposer de toute urgence s'agissant du numérique. On poursuit les échanges avec Yves Marie, auteur de Numérique, on arrête tout et on réfléchit.
Cause commune, 93.1, la voie des possibles.
Pour autant, dans ton livre, puis après je reviendrai à un séminaire qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, mais dans ton livre, y a-t-il quand même quelques alternatives ou au-delà, donc il y a la question politique, il y a la question de ne pas se laisser faire ou de continuer à produire là où on est, là où on peut, du dialogue, des débats, une autre façon d'être et un autre rapport au monde et un rapport aux autres qui soit effectivement pas simplement identitaire, nous, mais avec voilà une réalité de discussion et de débat public. Mais au-delà, il y a d'autres choses que tu décris dans ton livre.
Oui, bah, c'est ça. Je pense que quand il s'agit de se mettre en mouvement pour agir, déjà, voilà, moi, enfin, l'axe, c'est celui politiquement. Hein, pour moi, c'est celui de la décroissance. Bon, voilà, ça c'est une position que j'assume. C'est plutôt à titre individuel. Hein, c'est pas un discours de l'association. L'association fait de la prévention pour les enfants et rentre pas dans ces sujets politiques.
Le lève les yeux, tu dirais. Pardon, je te coupe, mais ouais. Le lève les yeux, il est que pour les enfants. Il est pas pour tous les gens qu'on voit dans le métro
sur le
smartphone.
Non, lève les yeux, c'est un mouvement en faveur de la déconnexion,
pour
tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le terrain, dans notre prévention, on s'en tient essentiellement aux enjeux déjà sanitaires, éducatifs, et on croit, en fait, on insiste sur le fait qu'on va se sentir mieux, on insiste surtout sur le côté positif, de dire qu'il y a un mieux-être à déconnecter, et voilà, on valorise les activités déconnectées, on a tout un projet de promotion de la lecture, voilà, on est vraiment dans la reconquête de l'attention positivement.
Oui, c'est ça. Plus que voilà, c'est parce que tu parlais de décroissance et tu dis ça, la décroissance, c'est pas...
Voilà, donc c'était plus parce que quand là, tu me poses la question, plus globalement, comment espérer remporter des batailles face à la numérisation du monde. Voilà, moi je dis qu'à titre personnel, je pense que la démarche politique dans laquelle il faut se mettre, c'est celle de la décroissance, c'est-à-dire assumer le fait que on peut pas croître à l'infini dans un monde fini, et que donc nécessairement il faut envisager un ralentissement, une baisse de la production et de la consommation.
Oui.
Ce qui nécessairement peut avoir, enfin, ça doit s'inscrire dans une forte ambition de justice sociale, puisque bon, il y a déjà d'énormes inégalités, mais si en plus la production, même si les fruits de la croissance sont très très mal répartis, malgré tout, si la croissance vient à se réduire, il faut impérativement que ça se fasse avec une beaucoup plus de répartition et de justice sociale. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle courant de la décroissance. D'ailleurs, on arrête tout, on réfléchit, hein, ça reprend le titre d'une BD de GB qui était de l'an 1, et qui a ajouté d'ailleurs, et c'est pas triste, ça on pourra en parler après, mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment bien rappeler que dans le projet de déconnexion, il y a cette idée qu'il y a de la joie, puisque cette surconnexion rend triste, nous aliène. Et donc, dans la déconnexion, c'est un projet de liberté et de joie, d'action collective. Voilà. Et alors, plus concrètement, je pense qu'il faut raisonner un peu en termes de niveau, donc à la fois individuel, parce que ça fait sens individuellement. Moi, par exemple, j'ai arrêté le smartphone et je pense que c'est... Enfin, il y a de plus en plus de gens autour de moi. Alors, évidemment, c'est biaisé, mais dans l'association, il y a un certain nombre de gens qui s'y mettent. Mm-hmm. C'est moins compliqué que ça en a l'air. Alors, ça dépend des âges. Clairement, je pense que pour les 16-25 ans, c'est l'âge où c'est le plus difficile. Mais il y en a qui y arrivent, parce que c'est là qu'a lieu la sociabilité. Arrêter les smartphones, ça peut être vraiment un acte décisif. De manière générale, en tout cas, réduire ses temps d'écran, arrêter d'avoir un écran dans sa chambre. Voilà. Ensuite, il y a l'échelle de ce qu'on peut appeler la tribu, donc son groupe, donc sa famille ou sa structure de son lieu de travail ou l'école de ses enfants. Là, c'est des lieux dans lesquels on peut s'engager pour changer un peu les règles internes. Fixer des règles de déconnexion, pas d'écran, pas de smartphone à table. On regarde des séries une fois de temps en temps, mais c'est pas systématique tous les soirs. Pas d'écran au réveil. Voilà, on peut fixer des règles comme ça. Dans l'entreprise, se battre pour un droit à la déconnexion. Enfin, voilà. Et ensuite, il y a le champ politique global. Et là, c'est pareil, je pense qu'il faut mettre la pression sur les responsables politiques et il faut jouer à tous les niveaux. Alors là, j'essaye d'esquisser un peu comme ça une forme de stratégie qui vise à miser sur les corps intermédiaires. Je pense que les corps intermédiaires sont fondamentaux, c'est-à-dire on parle des syndicats, des collectivités locales, des artistes, des associations, des médias. C'est des endroits en fait qui existent encore et qui ont encore une vraie influence dans un pays comme la France, parce qu'on a encore des caractéristiques d'une démocratie. Mais il faut bien comprendre que le projet des transhumanistes, hein, et donc de ceux qui promeuvent au maximum la technologie numérique, c'est un projet qui vise à supprimer précisément ces corps intermédiaires. Ouais. Ils ne supportent pas les syndicats, ils ne supportent pas les solidarités, et ils font tout pour les briser, pour établir un rapport direct entre l'usager et leurs grands groupes multinationaux. Et on voit bien l'ubérisation du travail, par exemple, qui rend très difficile le fait de s'opposer. Moi, je prends un exemple qui m'intéresse pas mal, c'est celui des graphistes, qui sont en train de se faire un peu grand remplacer par l'intelligence artificielle et qui sont pas vraiment en mesure de s'y opposer parce qu'ils sont tous individualisés, enfin freelance la plupart. Et alors que, à contrario, un des rares exemples, à ma connaissance, le seul d'une résistance réussie contre l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde, c'est les scénaristes d'Hollywood, qui ont fait une grève de plusieurs mois pour dire nous on arrête de travailler si vous utilisez l'intelligence artificielle dans la création de scénarios, et ils ont obtenu gain de cause. Voilà, donc ça c'est vraiment l'exemple à suivre, c'est-à-dire que des corporations, des métiers doivent comprendre l'ampleur de la menace, comprendre qu'ils sont en train de se faire remplacer et donc s'allier et résister.
Alors sur la question, je voudrais revenir juste sur un point, parce que tu as très bien décrit l'ensemble de la chaîne, là, depuis l'individu jusqu'au débat public plus large. Et ce corps intermédiaire, ces corps intermédiaires dont tu parles là, pour moi c'est vraiment une source d'ambiguïté et de difficulté permanente, et notamment avec l'association Antanac à côté. C'est-à-dire que nous faisons face souvent, je trouve, à des ambiguïtés de groupes affinitaires ou de gens qui luttent sur une thématique et qui viennent te dire bah en fait oui mais non mais ça je peux pas m'en occuper, moi j'utilise les moyens qui sont les moyens de maintenant, et donc moi ma lutte c'est tel autre sujet, j'en sais rien, sur qui sur le genre, qui sur la précarité, qui sur toutes les thématiques, et du coup se disent bah, ça fait rien, je vais utiliser quand même ces moyens là et je dois dire que très souvent je perds mon calme sur ces sujets, que le fait que les gens ne voient pas le lien en fait avec leur combat, et que voilà, ça me navre qu'il n'y ait pas de prise de conscience là-dessus, et je suis un peu...
Oui, je comprends bien. Je pense que c'est un gros enjeu, hein, c'est celui de la bataille culturelle, d'aller convaincre. Et je pense qu'effectivement, parmi les gens qui s'engagent dans des associations sur des causes que ce soit des causes environnementales, sociales, voilà, sociétales. Ou autre, ouais. Moi, je pense en particulier au mouvement climat, parce que
oui.
je pense que stratégiquement, c'est un mouvement qu'il faut réussir à amener à nous. Il y a un enjeu de les convaincre à mon avis, de la philosophie, de la pensée technocritique, qui consiste à dire que la technologie n'est pas neutre et que ce n'est pas qu'un simple outil qu'on va pouvoir retourner à notre avantage contre les dominants. Et donc, en fait, en utilisant de manière déraisonnée ces outils, quelque part, on joue un peu un jeu perdant. Bon. Mais ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, par exemple, je pense que j'ai écrit une tribune qui était « Pourquoi il faut quitter Twitter ?»
Oui.
Je pense qu'effectivement, c'est un terrain de jeu perdu d'avance. D'ailleurs, on voit bien Jordan Bardella qui cartonne sur TikTok. Encore une fois, comme je le disais, c'est un terrain de jeu qui structurellement encourage au clash, encourage encourage la pensée binaire. Et donc, si on est dans le camp entre guillemets du progrès dans le sens de l'émancipation et donc de la raison, c'est-à-dire qu'on veut faire ça va nécessairement passer par un dialogue avec une écoute respectueuse et réciproque. Et bien, en fait, ça ne peut pas se faire sur cette structure-là. Il ne peut pas y avoir d'écoute respectueuse sur TikTok ou sur X, puisque c'est pas fait pour ça. Si vous faites un tweet mesuré, réfléchi, en fait, personne ne le reprend. Si vous faites une vanne ou si vous faites une agression frontale, là, vous êtes repris parce que vous jouez sur les émotions. Donc, bon, après... C'est sûr que c'est très très compliqué parce que quand vous plaidez une cause, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut accéder à l'attention des autres. Je peux comprendre, par exemple, pour les partis politiques, s'ils refusent totalement la présence numérique, ils y voient un risque d'invisibilisation.
C'est ça.
Puisque précisément l'attention humaine est monopolisée par ces trucs. Donc c'est un jeu très compliqué. Je pense que il y a une espèce de chemin de crête à essayer de trouver. Par exemple, nous, Lève les yeux, on n'a pas de compte sur les réseaux sociaux. En revanche, on a un site internet, on envoie des newsletters. Il y a d'autres associations qui sont encore plus technocritiques, qui font même pas ça, qui refusent ça, qui font que des rencontres en vrai. Bon, je pense que voilà, notre point de vue, c'est qu'on est obligé de fonctionner dans le monde existant, et donc on utilise Internet et numérique. Mais c'est vrai qu'un défenseur des réseaux sociaux vous dira, bah oui, je fonctionne dans le monde existant, et comme tout le monde est sur X, bah j'y suis aussi. Et voilà, donc c'est des débats qui s'entendent. Chacun doit un peu essayer de trouver sa ligne éthique. Et moi, je désespère pas de convaincre encore autour, parce qu'en plus, un de nos autres arguments, c'est que le temps qui n'est pas mis à tweeter et à commenter et à se faire des vidéos sur ces réseaux, c'est un temps aussi qui est investi dans de la réflexion, dans de la vraie discussion, d'aller du temps. Enfin, en fait, c'est ça aussi, hein, c'est se libérer du temps et de la disponibilité d'esprit pour faire des projets de plus long terme, pour construire des alliances. Pour être un peu plus concret dans le projet politique que simplement être dans de la réaction et du commentaire et de la gratification narcissique, parce que c'est quand même beaucoup de ça dont on parle.
C'est ça, c'est-à-dire il y a la question du temps, mais il y a aussi beaucoup 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 la question que tu évoquais au début de l'émotion. En fait, tous ces actes-là, ces réseaux sociaux et cette façon-là de communiquer, elle est basée sur l'émotion et la facilité entre guillemets d'être avec son émotion. Et en fait, quand on est dans ces émotions-là, on n'est pas dans l'attention à l'autre. On peut pas.
Tout à fait, hein, c'est sûr. En fait, on nourrit la bête, voilà, un peu malgré soi. Et c'est sûr que du côté, je le constate, hein, ce que tu décris, du côté des associations, du côté des gens engagés sur tout un tas de thématiques environnementales, sociales, sociétales, je pense qu'il y a quand même un gros retard de prise de conscience et de compréhension de ces enjeux.
Il y a des habitudes déjà prises, en fait.
Il y a des habitudes déjà prises, et puis effectivement, c'est ça aussi, un bain numérique. Les gens ont constitué une communauté de followers.
Voilà, c'est tellement pratique.
C'est très difficile de s'en séparer. Bon, voilà. Il y a quelque chose qui est compliqué. Après, on a vu, il y a Anne Hidalgo qui avait quitté Twitter, il y a Raphaël Glucksmann qui a quitté TikTok, il y a quelques personnalités politiques, comme ça, il y avait Alda Kahlo, qui était la maire de Barcelone, De temps en temps, il y a une personnalité politique comme ça qui fait le geste de quitter ces plateformes. Voilà, il faudrait qu'il y ait un mouvement un peu plus de fond. Moi, je pense que bah, justement aujourd'hui, il y a un front uni à gauche.
Oui, c'est ça.
Ça pourrait être quelque chose de beau qui quitte tous en même temps Twitter et TikTok.
Ben voilà, alors voilà, justement, j'allais venir à cette troisième partie qui serait qu'est-ce que c'est les demandes que nous ferions, que tu ferais, que Lève les yeux ferait par rapport, alors, soit effectivement à ces personnes-là, mais plus globalement, sur des demandes politiques ou des demandes d'actes un peu forts, ça serait quoi?
Alors, du point de vue du plaidoyer, Lève les yeux, on fait partie du collectif Attention. Donc on n'aimait pas vraiment, bon après moi je peux avoir mes positions individuelles, mais ce qui est plus intéressant, c'est à l'échelle du collectif Attention, on n'a pas remis à jour nos propositions depuis un an à peu près.
D'accord.
Et donc on a ces propositions qu'on a portées déjà auprès de la commission d'experts et qui sont toujours, à mon avis, tout à fait valables, qui consistent à dire déjà qu'il faudrait un discours de prévention plus clair, c'est-à-dire pas d'écran avant 5 ans et pas smartphone avant 15 ans. Évidemment, investir, déployer de la prévention. Il faut que la prévention soit menée, ça c'est très important, par des associations ou des experts qui soient indépendants de l'industrie numérique. Ça, c'est un point clé qu'on a souligné auprès de la commission et qui apparaît dans le rapport, donc on est très content, parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Il faut quand même souligner que les deux principales associations de prévention sont cofinancées par l'industrie numérique et donc leur discours est forcément biaisé. Voilà, donc on n'imaginerait pas une association de prévention sur l'environnement cofinancée par Total.
Ah bon?
Voilà, et c'est ce qui se passe du côté numérique, donc c'est un peu surréaliste. Voilà, ça c'est un enjeu. Ensuite, il y a le numérique éducatif. Pour nous, c'est une urgence de vraiment freiner. Donc nous, ce qu'on propose, c'est l'interdiction des écrans en maternelle et en primaire, enfin jusqu'à la fin du primaire. Évidemment, crèche, primaire, maternelle et primaire. Qu'ensuite, pour collège et lycée, il y a uniquement des écrans dans les établissements scolaires pour des cours d'informatique, pour apprendre le numérique, mais pas de mettre fin à ce principe de distribution de tablettes et d'ordinateurs individuels pour tous les élèves, qui est une aberration écologique, économique, éducative, sanitaire, enfin bref. Voilà, donc ça c'est aussi un point important. Deux autres points qu'on porte dans notre plaidoyer, il y a le droit à la non-connexion administrative. Alors, peut-être pour finir sur l'école, il y avait aussi le droit à la non-connexion des familles, c'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de passer par un environnement numérique de travail, donc ce qu'on appelle les ENT, la Pronote, etc. On doit pouvoir communiquer avec son établissement scolaire sans cette obligation d'être connecté à Internet. Et donc ce droit à la non-connexion, il doit aussi se traduire de point de vue de l'administration. On doit pouvoir accéder à ces droits sans créer un compte en ligne. Ça, on rejoint aussi en ce sens les propositions de la défenseure des droits, Claire Hédon, parce que on voit bien que l'accès aux droits a été réduit à cause de la numérisation, puisque c'est plus compliqué, créer des comptes sur des plateformes qui sont toutes différentes les unes des autres. Il y a des bugs, il faut 14 000 comptes, enfin mots de passe, enfin c'est infernal. Et on doit pouvoir accéder à ces droits sans parce qu'aujourd'hui en fait les gens qui n'ont pas Internet sont de facto des citoyens de seconde zone qui ont moins de droits. Ça c'est totalement scandaleux. Et ensuite la dernière proposition qu'on porte, là on fait écho à des associations comme Résistance à l'agression publicitaire ou d'autres anti-pub, et donc on demande la fin des écrans publicitaires dans les rues. Voilà, ça c'est une proposition qui existe depuis longtemps, mais on la soutient aussi. Ça dans un ensemble comme ça de propositions qui visent à entamer une forme de désescalade numérique.
Ok. Voilà. Rien sur la question, par ailleurs, en termes d'environnement, à propos de l'extractivisme versus les déchets qui sont à peu près dans les mêmes pays. Hein, on va chercher les matériaux, puis on renvoie ensuite. Rien, il n'y a pas une chose là-dessus sur la question de la fin de la production à ce point-là de smartphones, d'ordinateurs, etc. La décroissance en question d'un point de vue vraiment technique, matériel, non ?
C'est une bonne question. En fait, ça a pas, comme je te le disais, ça fait longtemps en fait qu'on n'a pas mis à jour le champ de nos propositions. C'est toujours pas mal de travail de se réunir pour se mettre d'accord sur.
Oui, j'imagine. Oui.
Et en fait, il faudrait sans doute réfléchir à ces questions-là. Il y a le prochain livre de Fabien Lebrun qui pourra peut-être aussi nous y aider.
Oui.
Donc, il y aurait sans doute des propositions. Il y a des associations. Hein. Il y a aussi Célia Isoar qui a sorti un livre sur cette question récemment.
Oui.
Qui est très bien. Il y a une association qui s'appelle je sais plus, Génération Lumière, je crois. Faudrait vérifier. Donc qui se bat pour la protection des droits des Congolais qui sont victimes d'exactions à cause de cette extraction minière.
Mm-hmm.
Il y a aussi l'association SysX qui travaille sur l'extraction minière. Mm. Donc voilà, c'est vrai que nous, c'est pas notre principe, c'est pas notre premier domaine d'expertise et de connaissance. On est dans de la prévention de terrain sur la surexposition aux écrans. Et on n'a pas été jusqu'à analyser ce champ-là pour faire des propositions très pertinentes, pourrait effectivement, c'est une piste intéressante à creuser.
Ce que je voulais dire, c'est par rapport, et c'était beaucoup le combat de Fabien Lebrun, c'était la question de les enfants, c'est pas que pour affiner, avoir cette grande plage devant nous là de tout ce qui est possible.
Mm-hmm.
Les enfants, c'est pas simplement les nôtres blancs là ici.
Bien sûr.
En France, en Occident, mais aussi les autres. Et du coup, eux, soit c'est pas sur les écrans, enfin c'est pas le lève tes yeux des écrans, mais c'est le lève tes yeux peut-être des déchetteries dans lesquelles tu vas aller chercher les produits qui vont te permettre de vivre, hein, parce que tu vas vendre 3 grammes de ceci.
Mm-hmm.
Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est cette question là aussi qui serait l'ouverture. Moi, je sais que pour avoir discuté, par exemple, dans des écoles avec des gamins sur cette question-là, il y avait à la fois ce qui était leur problématique, leur question à eux dans leur pratique quotidienne, avec un écran, un smartphone, etc., mais aussi une conscience à ouvrir, me semble-t-il, sur autre chose, de qu'est-ce que ça veut dire quand toi, tu as cassé ton smartphone et puis qu'il y en a, tes parents vont en acheter un autre, puis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, tu vois, quelque chose comme ça.
Non, tout à fait, mais bon, j'ai la sensation que là, on est sur un sujet qui est beaucoup plus vaste, en fait, qui est celui de la responsabilité sociale des entreprises, et ça va toucher, en fait, à peu près la façon dont on s'habille, la façon dont on mange, la façon dont, à peu près tout ce qu'on consomme. Tout ce qu'on consomme en fait dans une société industrielle capitaliste globalement est entaché de sang, de souffrance, d'injustice. Donc, moi je partage complètement le fait que c'est pour ça aussi que je m'inscris dans le projet de la décroissance, parce que c'est précisément un projet qui vise à rééquilibrer justement aussi les relations entre les pays exploitants et exploités. Mais disons que ça reste quand même extrêmement compliqué et qui voilà les pistes aujourd'hui, c'est peut-être de mettre fin au libre-échange, de mettre fin de renforcer les mesures de responsabilité sociale des entreprises. Et après il y a tout un tas de mesures qui sont à l'échelle de la souveraineté de ces pays sur lesquelles on peut pas forcément avoir la main. En tout cas c'est des sujets très compliqués et sur lesquels il y a des associations plus spécialistes qui peuvent avoir des propositions ajuster, donc c'est pour ça aussi que c'est bien de rester un peu dans son champ et là où on est le plus pertinent, quoi.
Oui, je comprends, ok. Ça marche. Une dernière chose, puis après, je sais qu'il faut qu'on se quitte parce que l'heure va être bientôt passée, mais il y a eu un séminaire sur où il y en a régulièrement, un séminaire auquel tu participes à la Maison des Sciences de l'Homme, c'est ça ?
Ah, oui, j'étais invité mardi, là, à la Fondation...
Ouais. Sur le totalitarisme informatique.
Voilà. Là, c'est Christopher Polman, qui est un professeur de droit à l'Université d'Alsace-Lorraine, qui est spécialiste de toutes ces questions, qui vient de publier un livre qui s'appelle Totalitarisme informatique, aux éditions Le Bord de l'Eau, qui est déjà épuisé, qui est très bien. Et en fait, lui, il a...
déjà épuisé ?
Ouais, et donc ils sont en train de le réimprimer.
Okay.
Ouais. Non, il fait vraiment un super travail. En fait, depuis 2015, il organise ce séminaire dans les locaux de l'École des hautes études en sciences sociales. Et donc, c'est un mardi par mois. Il invite un auteur d'un essai sur ces questions du numérique, des impacts du numérique sur la société, pour le dire largement.
Mm-hmm.
Et donc là, c'était le dernier séminaire de l'année auquel j'ai participé mardi en tant qu'invité.
Ouais.
Et voilà, c'était super intéressant. Il y a des gens qui connaissent très bien ces sujets, qui participent. La discussion est très ouverte. C'est, en gros, le modèle, c'est 20 minutes de 20, 30 minutes de présentation et une heure et demie de débat.
De débat avec les gens qui sont
avec
là.
Les gens qui sont là. Donc, ouais, c'est très riche, très, très intéressant.
Ah, tout à fait.
Mais ça reprend l'année prochaine. À partir de janvier, je crois que ça reprend.
C'est janvier, d'accord. Mmh. Parce que là, du coup, ça va être ça. Voilà, ça rediscuter sur les questions de, à la fois là. La militarisation des vies, l'emprise totale, etc., versus l'attractivité énorme à laquelle il est très compliqué de faire face. Quand on, voilà. Je vois que ces sujets sont effectivement pleins dans le tableau de ce qu'on a décrit là.
Tout à fait.
Bon, bah super. Et la suite, là, du coup, tu continues ton parcours.
Oui, je pense que l'actualité intéressante pour nous, c'est qu'on est en train de. Donc, on est basé à Marseille.
Oui.
Mais on a quand même une identité un petit peu parisienne depuis le départ, puisque les deux cofondateurs, donc Florent Souillot et moi, on est parisiens à l'origine. Et on a toujours eu des intervenants présents à Paris, en Ile-de-France. Et là, en fait, en septembre, on ouvre officiellement notre première antenne. C'est-à-dire qu'on a, on recrute quelqu'un pour à mi-temps pour être présent dans un bureau, organiser l'activité de Lève les yeux en Ile-de-France. Donc on va pouvoir se déployer, passer un cap pour devenir... pour changer d'échelle, quoi, pour grandir, devenir une association réellement nationale. Et on ambitionne à terme d'ouvrir aussi dans d'autres villes où on a des groupes locaux actifs. On a un groupe local à Bordeaux, à Nantes, à Nice, à Lyon, à Sète. Voilà, des petits groupes locaux comme ça qui sont actifs. Et donc, dans les années qui viennent, on envisage, si ça fonctionne bien déjà là en Ile-de-France, d'ouvrir des vraies antennes pour pouvoir proposer notre activité de prévention et notre pédagogie qui commence à être assez à avoir fait ses preuves à toutes les dans les écoles, les collèges, les centres sociaux, les lycées, où on sent qu'il y a un grand besoin.
Super. Bon, bah peut-être ce sera l'occasion à la rentrée qu'on rencontre des gens ou qu'on refasse un petit échange avec les personnes qui seront sur place et puis qu'on voit comment ça se...
Ah oui, avec plaisir, oui, la personne a déjà été identifiée, donc okay. elle pourra venir en parler avec plaisir.
Super. Bah écoute, merci beaucoup Yves de tous ces éléments et puis à très bientôt, bon courage.
Bah, merci beaucoup de l'invitation.
Je t'en prie.
Et on termine cette émission avec Chloé. À propos de la liberté, qui est, on vient de l'évoquer longuement, en danger. On est en juin 2024. À bientôt sur la radio Cause Commune.
Mon frère, c'est notre pays, celui qu'ils veulent mettre en poussière. Car si la liberté faillit, que deviennent nos droits, nos terres? Ma sœur, c'est notre patrie, celle qu'ils veulent mettre aux enchères pour faire taire les démentis et pousser l'ombre sur la lumière. Mes frères, il est temps d'éclore, de porter notre parole au front. Ils sèment la peur et le désordre, ils veulent la guerre et ils l'auront. Sur ces sentiers, miséricorde, qui peut approuver cette violence? Les droits de l'homme sur dans leurs bombes et leurs démences. Liberté, révolution, qu'on soit 10 000 ou des millions, la force est dans la conviction. Liberté, je crie ton nom. Liberté, révolution, pour nos enfants nous marcherons. Non, jamais nous ne plierons, et même à terre son nom nous le crierons. Ma sœur, c'est pas ma patrie, celle qui s'injecte d'ignorance, celle qui tue la démocratie, veut nous faire croire en sa bienveillance. Mon frère, c'est pas mon pays, celui qui nous oblige par la contrainte, là où se masque la tyrannie et où l'on moque nos actes, nos craintes. Mes sœurs, non, c'est pas ma France, celle qui nous prive de liberté. Culture, travail et résistance, notre étendard s'est divisé. Sur le drapeau, la folie danse. De couleurs vives, d'absurdité. Honte à eux et leur violence. Soyons dignes d'humanité. Liberté, révolution. Qu'on soit des mille ou des millions. La force est dans la conviction. Liberté, je crie ton nom. Liberté, révolution. Pour nos enfants, nous marcherons. Non, jamais nous ne plierons. Et même à terre, son nom, nous le crierons. Pacifiste contre conformiste. Démocratie contre tyrannie. Libertaire contre tortionnaire. Culture contre dictature. L'éthique contre politique. Humanisme contre obscurantisme. Connaissance contre obéissance. Nous face à l'injustice. Liberté, révolution. Soit 10 000 ou des millions. La force est dans la conviction. Liberté, je crie ton nom. Liberté, révolution. Pour nos enfants, nous marcherons. Non, jamais nous ne plierons. Et même à terre, son nom, nous le crierons.
On ne peut pas effectivement vivre sous une espèce de restriction des libertés permanentes à chaque fois qu'il se passe un truc dans ce pays. Sinon, on va tous effectivement devenir fous et sinon, ça